Les éditions Autrement dit ont le plaisir de vous présenter « Le rivage des Sirtes » de Julien Gracq. Une prise de commandement. J'appartiens à l'une des plus vieilles familles d'Orsena. Je garde de mon enfance le souvenir d'années tranquilles, de calme et de plénitude, entre le vieux palais de la rue San Domenico et la maison des champs au bord de la Zenta, où nous ramenait chaque été et où j'accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ses terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. Mes études terminées dans l'ancienne et célèbre université de la ville, des dispositions assez naturellement rêveuses et la fortune dont je fus mis en possession à la mort de ma mère firent que je me trouvais peu pressé de choisir une carrière. La seigneurie d'Orsena vit comme à l'ombre d'une gloire que lui ont acquise au siècle passé le succès de ses armes contre les infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce avec l'Orient. Elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde et que, malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts des créanciers. Son activité faible, mais paisible encore, et comme majestueuse, est celle d'un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort. Les charges publiques et le service de l'État pour lequel le zèle du patriarcat antique d'Orsena est resté légendaire, dans cet état d'infirmité, conserve donc peu d'attrait pour ce qu'il y a de bouillonnant et d'illimité dans les impulsions de la jeunesse. Le déclin de l'âge marque le moment où l'on accède aux charges de la seigneurie avec le plus d'efficace. Quelque chose de romanesque et d'inemployé flottait donc sur la vie libre et à beaucoup d'égards peu édifiante que menaient dans la ville les jeunes gens nobles. Je me mêlais de bonne foi à leurs plaisirs fiévreux, à leurs enthousiasmes d'un jour, à leurs passions d'une semaine. Le bâillement précoce est la rançon des classes trop anciennement assises sur le fait, et j'accédais très vite aux délices, vantées dans la jeunesse dorée de la ville, de l'ennui supérieur. Mes journées se partageaient entre la lecture des poètes et les promenades solitaires dans la campagne. Par les soirées orageuses de l'été qui font peser sur Orsena comme un manteau de plomb, j'aimais à m'enfoncer dans les forêts qui cernent la ville. Le plaisir de la chevauchée libre redoublait en moi avec les heures, comme redouble la vitesse d'une bête généreuse. Souvent, je ne tournais bride qu'au crépuscule. J'aimais ces retours dans la pénombre montante. Comme la cime de ces bannières s'ennoblit pour nous d'un reflet de plus grand prix parce qu'il monte d'une brume de siècles, les dômes et les toits d'Orsena jaillissaient plus limpides du brouillard. Les pas assagis de mon cheval vers la ville me paraissaient alourdis d'un secret. Mes occupations de la nuit étaient plus frivoles. Je me mesurais aux jeunes gens de mon âge dans les joutes platoniques des académies qui fleurissent à Orsena à mesure que le Sénat s'y vide. J'accordais beaucoup à l'amour et je m'y montrais aussi ardent et aussi libre qu'aucun autre. Il arriva que ma maîtresse me quitta. J'en eus d'abord seulement de l'humeur, et je ne m'alarmai vraiment qu'en mesurant soudain le peu d'inclination que je me sentais à en prendre une autre. Cet accroc médiocre à des occupations dont les mailles s'étaient, sans que je le susse, peu à peu démesurément distendues, fit soudain s'effiler en lambeaux sous mes yeux ce que je considérais peu de jours encore auparavant comme une existence acceptable. Ma vie m'apparut irréparablement creuse. Le terrain même sur lequel j'avais si négligemment bâti s'effondrait sous mes pieds. J'eus soudain envie de voyager. Je sollicitai de la seigneurie un emploi dans une province éloignée. Le gouvernement d'Orsena, comme celui de tous les États mercantiles, s'est toujours distingué par une méfiance jalouse à l'égard des chefs et même des officiers subalternes de ses armées et de ses flottes. Contre les risques d'une intrigue ou d'un coup d'État militaire, longtemps redouté à l'époque où des guerres continuelles l'obligeaient à tenir en campagne des forces importantes, l'aristocratie d'Orsena n'a pas cru se prémunir assez en imposant la plus étroite sujétion des cadres militaires au pouvoir civil. Depuis des temps très reculés, les plus nobles familles ne pensent point déchoir en déléguant auprès d'eux leurs jeunes hommes dans des fonctions qui touchent de fort près aux pratiques de l'espionnage et dont l'effet a été longtemps d'étouffer dans l'œuf toute tentative de conspiration armée. Ce sont là les yeux célèbres de la seigneurie. Leur pouvoir mal délimité, mais en réalité toujours officieusement étayé par le poids d'un grand nom et le crédit d'une ancienne famille, leur laisse en général l'initiative la plus étendue, même au cours d'une campagne. L'unité de vue et l'énergie dans la conduite des guerres d'Orsena ont parfois souffert de l'atmosphère de méfiance et de la timidité dans le commandement qu'engendrent de pareilles pratiques. Mais on considère en revanche que la situation fausse qui leur est faite est propre à développer très tôt le doigté politique et le sens de la diplomatie chez ceux que la seigneurie destine à ses plus grands emplois. Ces débuts douteux d'espions accrédités se trouvèrent être ainsi longtemps le chemin obligatoire des plus hautes distinctions. Dans l'état de décrépitude et d'énervement où sont tombées aujourd'hui ses forces, Orsena eût pu sans grand risque se relâcher d'une vigilance si soupçonneuse. Mais la force des traditions, comme dans tous les empires croulants, croît chez elle à mesure que se dénude plus ouvertement, dans les rouages du gouvernement et de l'économie, l'action prépondérante de tous les principes d'inertie. On délègue les fils de famille aux yeux dans le même esprit anodin, ou ailleurs on les envoie voyager à l'étranger et prendre part aux grandes chasses, mais on les y délègue toujours. Un cérémonial devenu avec le temps à demi bouffon, mais soigneusement conservé, continue même à marquer cette espèce de prise de toge virile. Mon père, dans sa demi-retraite, s'était inquiété de ma vie de dissipation. Il apprit avec plaisir mes dispositions nouvelles. Il appuya ma démarche auprès de la seigneurie de tout son crédit qui restait grand. Peu de jours après qu'on l'eût informé d'une décision de principe favorable, un décret du Sénat me confirma dans les fonctions d'observateur auprès des forces légères que la seigneurie entretenait dans la mer des Sirtes.